Écoute.
Émancipé.
Le podcast de l'école émancipée.
Jeunes migrants isolés, quelle est leur situation? Une émission préparée et présentée par Elisabeth Hervouet.
Bonjour, je m'appelle Tchekné, j'ai 14 ans. Je suis né au Mali. Je vivais dans une grande maison avec toute ma famille. Là-bas, au village, j'allais à l'école. Des fois, on montait sur le vase pour s'amuser. Puis à 10 ans, je ne sais pas pourquoi, je suis parti à Bamako avec ma mère, Réjeanne, mon grand frère. Un jour, je ne sais pas pourquoi, on a commencé à faire des papiers pour que je vienne en France.
Il et elle s'appellent Oumar, Myriam, Mamadou, Fatou, Ali. Il et elle sont arrivés en France venant d'ailleurs, seuls, dans des conditions d'extrême difficulté. Ce sont ce que l'on appelle les mineurs isolés ou les mineurs non accompagnés. L'école émancipée a voulu savoir comment il et elle étaient accueillis aujourd'hui dans la France de Macron. Pour cela, nous avons rencontré deux membres d'associations, Blandine Vidal-Naquet, dans la Seine-et-Marne, et Béatrice Hervouet à Montpellier. Nous avons aussi rencontré un responsable de la FSU, Grégory Bektari, et une sociologue, Emeline Zoukbédé. Je leur cède la parole. Les voix intercalées sont celles de jeunes d'un UP2A en Seine-et-Marne.
Bonjour Blandine. Je crois que savoir que tu es en relation avec une association d'accueil et d'aide aux migrants, c'est ça?
C'est ça.
Et dans ce cadre-là, tu as accueilli des jeunes chez toi. Est-ce que tu peux m'en parler un peu? Est-ce que tu peux m'expliquer ce qu'il en a été pour leur scolarisation? Est-ce qu'ils étaient scolarisés? Puis je poserai des questions au fur et à mesure.
D'accord. On a surtout accueilli un jeune malien, Mamadou, donc qui est arrivé en France en 2018. Et en fait, on a été alerté, enfin, on faisait partie avec Vincent, mon mari, d'une association qui s'appelle Inter Tous à Lagny. Et on a été alerté par Turbulence, une association de noisiennes, qui s'occupait d'un jeune, mais sans avoir du tout possibilité de l'héberger, qui s'occupait d'un jeune donc, qui dormait dans la rue à Noisiennes. Et donc, Une Terre pour Tous a proposé un hébergement très ponctuel et chez les bénévoles de Mamadou. Ça a tourné, donc on a accueilli Mamadou, qui n'était pas du tout scolarisé, dont la minorité, la demande de reconnaissance de minorité a été rejetée. Hein, donc, il n'avait pas encore 16 ans, mais il n'a pas été reconnu comme mineur. Et on a réussi à ce qu'il soit scolarisé par l'intermédiaire du lycée Coubertin, en particulier d'une CPE, qui a accepté de l'inscrire à Coubertin sans qu'il ait aucun papier. Et par ce biais, grâce à cette inscription, il a pu suivre les cours au Greta, avec une remise à niveau, des cours de français, des cours un peu généraux, ce qui lui a permis ensuite, à la fin de l'année suivante, de s'inscrire en CAP.
Et il a été inscrit à Coubertin, mais en fait, il était inscrit à Coubertin dans un cadre de Greta, c'est ça?
Alors, il a été inscrit à Coubertin pour pouvoir pour pouvoir accéder au cours du Greta. Hein, il n'a pas été en cours en seconde à Coubertin. Hein, il n'avait pas du tout le niveau. Hein, il y a une évaluation qui s'est faite. Je ne sais plus exactement à quel niveau ça se fait. Hein, il y a une évaluation pour savoir si on scolarise les jeunes en telle ou telle classe. Et ce n'était pas possible de le scolariser avec les jeunes de son âge. Donc, c'était la structure Greta qui nous convenait.
Et il avait été scolarisé dans son pays d'origine ?
Très peu, très peu. Il a suivi un tout petit peu d'école en français. Ce qui était amusant, c'est que moi, je suis prof. Il est venu avec moi en cours une fois. Et il était très étonné du nombre d'élèves qu'il y avait dans la classe et du fait que j'explique. Il m'a dit, pour que le prof explique, faut payer. Et voilà, bref. Et donc, il était allé une année, je crois, à l'école. Et ensuite, il avait été envoyé à l'école coranique, où je crois que l'enseignement était très réduit. C'était des travaux des champs contre quelques cours. Donc, il parlait français assez peu.
Et donc, il a fait un CAP de quoi ?
Alors, un CAP de jardinier paysagiste à la Bretonnière, donc dans lequel il est entré. Alors, à ce moment-là, ça demande...
C'est quoi la Bretonnière ?
Alors, la Bretonnière, pardon, c'est un lycée agricole à côté de Coulommiers. Hein, donc, assez loin, mais qui a accepté non seulement de l'inscrire sans qu'il ait de papier, qu'il l'a pris en internat à des conditions très... sans qu'il ait quasiment rien à payer. Enfin, ils ont été, que ce soit à Coubertin ou à la Bretonnière, on a été vraiment très aidés par des personnes qui ont agi pour l'aider.
Et tout ça s'est passé par votre intermédiaire, en fait ?
Alors, pour Coubertin, non, pas nous directement, mais par des gens de la SOS. Hein, et puis, c'est eux qui nous ont parlé de la Bretagne. C'est ensuite à Coubertin que... On l'a aiguillé vers la Bretonnière, d'abord parce que ça lui convenait, l'idée de devenir jardinier lui plaisait bien, ayant fait des travaux agricoles au Mali quand il était enfant. C'est une perspective qui lui plaisait, et parce que ça ouvre à des métiers où il y a de l'emploi.
Ce que je veux dire aussi, c'est que, en fait, ce sont les bénévoles, aussi bien de Turbulence, d'Une Terre pour Tous, qui lui ont permis de faire les démarches.
Oui,
se donnant accès.
Absolument.
En fait, il n'y a eu aucune prise en charge de l'État.
Ah non, absolument. Alors la prise en charge, elle est venue justement à peu près en même temps que son entrée en CAP, puisque donc sa demande de reconnaissance de minorité a été prise en compte. Hein. Il n'a pas encore été reconnu mineur, c'était en juin 2019. Mais son dossier a été déposé et de ce fait, il a pu être pris en charge par l'ASE. Hein, donc, il a été pris en charge par l'ASE. Mais ça a été une catastrophe. Hein, il a été pris en charge par l'ASE de Paris de manière très collective dans un hôtel. Alors, c'était l'été, donc peut-être c'était encore pire que d'habitude, je ne sais pas. Mais dormant à l'hôtel fermé dans la journée, il devait se rendre à un endroit pour le petit déjeuner, encore à l'autre bout de Paris pour le déjeuner, encore à un troisième endroit pour le dîner, avec rien à faire en particulier dans les temps morts. Et il a très, très mal vécu cette période. Il était extrêmement mal, très angoissé. Il était très inquiet. Et il a fini par... on s'est entendu aussi, on était en contact avec la psy de France Terre d'Asile qui s'occupait de l'accompagnement de ces jeunes, qui nous a conseillé, lui a conseillé de faire de demander à la juge pour enfants d'être hébergée chez nous en tant que tiers de confiance. Hein, donc ça s'est fait assez vite. On a d'ailleurs été surpris de la rapidité de la procédure. Hein, donc je ne sais plus quand exactement, mais à l'automne 2019, donc après juste quelques mois passés à Paris dans des conditions vraiment pour lui très très difficiles, il est revenu à la maison et à ce moment-là, il est allé. Il a été scolarisé vers Coulommiers, à la Bretonnière, et il revenait dormir chez nous le week-end.
Et maintenant, il a des papiers ?
Alors maintenant, il a des papiers, c'est quand même une histoire qui date un peu, hein, donc il a eu son CAP, alors il a un titre de séjour qui est pour un an pour l'instant, hein, donc qui est renouvelable, mais Il travaille, il a un CDI en tant que jardinier à Village Nature, voilà, finalement.
Il en est à combien de titres de séjour successifs?
Alors là, il a eu, c'est son troisième, donc il va demander un titre pour 4 ans.
Donc là, il va être sous la règle de titre de séjour de 4 ans ou dehors.
Voilà.
Ouais, c'est ça. Il n'a jamais eu de QTS?
Alors, il a eu une OQTF qui a été cassée. Hein, une OQTF, donc il y a eu, il était mineur à ce moment-là, il était hameau. Et il y a eu une bagarre de jeunes, quelque chose qui aurait pu, dans un établissement, se solder par une journée d'exclusion ou quelque chose d'approchant. Aurait pu avoir des conséquences absolument dramatiques pour lui. Hein, donc la police est passée par là et a emmené tous les jeunes qui étaient impliqués dans cette bagarre en garde à vue. Et donc il a eu une OQTF pour trouble à l'ordre public. Cette OQTF a été cassée.
Et tu seras d'accord pour dire que sans aide, ces jeunes ne peuvent pas faire sortir.
Ouais, les démarches sont extrêmement compliquées. Tout est fait pour...
Et tu penses que la loi d'immigration va arranger les choses ou que ça risque de s'aggraver?
Ça rend les choses encore plus compliquées. Et... Non, bien sûr. C'est...
D'accord. Écoute, je te remercie, Blandine. Et puis, à bientôt.
Bonjour, mon nom est Ali, j'ai 14 ans, je suis né en Afghanistan. Tout le monde connaît les problèmes de l'Afghanistan. J'ai grandi avec la guerre, mais j'étais petite et je ne m'en souviens pas. Mes premiers souvenirs se situent en Turquie.
Bonjour Grégory.
Bonjour Elisabeth.
Je vais te présenter en deux mots. Tu es membre du Bureau fédéral national de la FSU et à la FSU, tu travailles en particulier sur les questions de droits et libertés. Et travaillant sur les questions de droits et libertés, ça te conduit à t'occuper particulièrement parfois de la situation des migrants. Je ne me suis pas trompée jusque-là?
Non, effectivement, tout ce que tu as dit est exact.
Est exact, ok. Bon, je voulais savoir, alors j'ajoute que tu es un camarade de l'école émancipée, savoir quelles étaient les positions d'ensemble, qu'est-ce qu'on vote en congrès à la FSU sur la situation des migrants en France? Qu'est-ce qu'on dit des migrants en France?
Eh bien, on dit sur cette question sur laquelle les médias ont tendance à faire beaucoup de bruit et à dire beaucoup de choses particulièrement problématiques. Elles ne sont pas carrément humiliantes pour les gens qui font le choix de migrer. Nous, on dit qu'aujourd'hui, il n'y a pas de crise de l'immigration, mais il y a une crise de l'accueil. Qu'on doit faire, c'est mettre en place les conditions matérielles, notamment, mais pas que, pour accueillir les gens qui migrent dans des conditions décentes et faire en sorte que donc les choses se passent de la façon la plus harmonieuse possible en organisant.
D'accord, donc la position de la FSU, c'est un accueil des migrants arrivant en France. Alors, la FSU, elle comporte beaucoup d'enseignants. C'est quand même une fédération syndicale qui est pas mal dans le monde enseignant et dans la fonction publique. Est-ce qu'elle a déjà été interpellée sur la question des mineurs migrants isolés?
Oui, c'est d'ailleurs, comme c'est une fédération, en fait... où il y a beaucoup d'enseignants, d'enseignantes, où il y a aussi beaucoup de travailleurs sociaux, sociales. Il y a des gens qui travaillent aussi dans l'accompagnement de l'enfance, qu'on va dire en danger, parce qu'elle elle s'est retrouvée à commettre des actes de délinquance. Voilà, plusieurs types de syndicats comme ça qui sont aux prises avec des jeunes qui sont des jeunes mineurs migrants, parfois très jeunes majeurs aussi. Elle dit beaucoup de choses sur cette question et elle elle dit des choses qui sont, on va dire, similaires à ce qu'elle va dire pour les adultes migrants, à savoir qu'il faut organiser l'accueil. Mais elle va aussi dire des choses spécifiques sur la question de la scolarisation, notamment, sur la question de la protection. Et la FSU s'est toujours prononcée pour qu'on traite les mineurs étrangers comme n'importe quel autre enfant, notamment quand on parle des mineurs accompagnés qui se retrouvent sans leur famille, sans tuteur, sans tutrice. Voilà.
D'accord. Et donc, en fait, la FSU est bien favorable à ce que les mineurs soient scolarisés dans le système français avec des moyens particuliers.
Oui, c'est régulièrement d'ailleurs, la FSU dénonce l'absence de moyens pour ouvrir des classes qu'on appelle UPE2A, dans le jargon de l'éducation nationale, qui sont des classes spécifiques avec des professeurs de français langue étrangère qui vont permettre à des mineurs non francophones de voir, comment dire, naviguer dans la société française en maîtrisant la langue le plus rapidement possible. Voilà, et c'est un enseignement qui joue un rôle très important, évidemment, donc pour l'apprentissage du français, mais dans le même temps pour la socialisation de ces jeunes. Et très régulièrement, on dénonce le fait qu'il n'y a pas assez de classes UPE2A dans les établissements. On demande à ce qu'il en soit créé davantage. Il y a régulièrement comme ça des collectifs qui se créent dans les départements pour demander, et de façon intersyndicale et interassociative aussi, j'ai envie de dire, la FSU va défendre ça.
D'accord. Juste une question supplémentaire sur la question des mineurs sans papiers, puisque certains des mineurs qui arrivent en France ont en fait relativement rapidement des papiers quand ils sont réfugiés, quand ils viennent de pays pour lesquels la reconnaissance du caractère de réfugié se fait relativement rapidement. Je pense par exemple à l'Afghanistan, je pense à l'Ukraine, bien sûr, où les jeunes Ukrainiens ont été accueillis sans trop de difficultés. Est-ce que on scolarise les jeunes qui sont sans papiers en France ?
Bien sûr, tout à fait. On scolarise les jeunes sans papiers. Alors, le problème qu'on peut rencontrer parfois des difficultés quand les parents vont se retrouver sous OQTF et surtout en centre de rétention. Là, effectivement, on a d'ailleurs eu régulièrement des mobilisations avec des pétitions, avec des lettres qui voyaient, des sollicitations qui sont envoyées au préfet, aux recteurs, aux rectrices, aux inspecteurs, aux inspectrices d'académie, etc. Des rassemblements, des manifestations, ça c'est des choses qui sont arrivées très régulièrement en lien avec RESF, hein, le réseau éducation sans frontières, quand il s'agit de pouvoir faire en sorte que ces jeunes restent en France quand leurs parents sont menacés d'expulsion, puisque le risque c'est toujours qu'ils soient expulsés avec leurs parents. Évidemment que la FSU s'investit quand il est question d'arriver à faire plier la préfecture sur la question d'expulsion d'un jeune ou d'une jeune sans papier qui est scolarisé. Évidemment, malheureusement, ça fait partie des combats dans lesquels on est investi assez régulièrement. Mais la plupart du temps, ce sont des luttes qui sont victorieuses.
D'accord. Pour l'instant, encore. À propos de la loi, tu es en même temps professeur dans le supérieur, tu es au SNESUP. Hein. Je crois que la situation spécifique des migrants étudiants a été évoquée dans la loi Darmanin, et en particulier sur les droits d'inscription universitaire. Est-ce que tu peux en dire deux mots ?
Alors, la FSU s'est de toute façon battue contre cette mesure qui est inique, qui est xénophobe, et continue à se battre. On avait déjà commencé avec la première réforme régressive qui s'appelait Bienvenue en France et qui multipliait par je ne sais plus combien, je crois 3, si je me souviens bien, les frais d'inscription des étrangers. Là, on a atteint encore un autre palier. Alors, il se trouve que Bienvenue en France, on a réussi d'une certaine façon à neutraliser cette réforme parce que le mouvement a été suffisamment puissant pour obliger les présidences d'universités à prendre en charge en fait les frais des étudiants et étudiantes étrangers et étrangères qui en font la demande. Et donc, on se retrouvait, dans les faits, à avoir des frais d'inscription payés par les étudiants et étudiantes étrangères qui sont finalement les mêmes que les étudiants et étudiantes nationaux, nationales. Mais là, c'était carrément ce dont il était question, c'est d'obliger les étudiants et étudiantes étrangers et étrangères à payer des cautions de retour, donc à rendre les choses encore plus impraticables financièrement. Alors, ça n'a pas encore été mis en place. Il y a un flou assez important parce qu'il y a quand même une mobilisation non négligeable sur la question. Et donc, à la fois le président et la ministre ont dit qu'ils allaient revenir sur ça. Donc là, on attend encore. Mais de toute façon, on se bat, nous, y compris localement, à l'intérieur des universités. Quand on n'est pas dans la rue, en fait, avec l'ensemble du mouvement social contre cette loi, on se bat aussi dans nos établissements, intersyndicalement la plupart du temps, avec les collègues, pour que les présidences d'université ne laissent pas faire ça.
D'accord. Je vais poser une toute dernière question à propos de la fin de scolarisation. Tu me confirmeras ou tu m'affirmeras que le risque d'expulsion des jeunes à la fin d'un cycle de scolarisation est plus grand encore et que c'est aggravé par la loi Darmanin, non ?
Il y a quelque chose qui est plus lié, pour moi, à la question de la minorité aussi, en fait.
Oui.
Parce que là, on est en train de parler de jeunes majeurs plutôt, c'est ça, non ?
Ils deviennent des jeunes majeurs, ils sont arrivés mineurs, mais ils deviennent des jeunes majeurs.
Alors, moi, ce que j'avais retenu, et c'est intéressant parce qu'il y a, le Haut Conseil à la famille, à l'enfance et à l'âge qui vient justement de rendre un avis extrêmement négatif sur la loi qui est sortie aujourd'hui. Alors, la FSU avait essayé justement de faire un maximum de bruit et de publicité pour alerter. Alors, elle n'a pas fait seule, elle l'a fait avec les autres représentants des syndicats notamment et d'autres associations qui sont représentées au Conseil en question. Elle a argumenté très fortement sur toutes les régressions qui concernaient les mineurs étrangers et les jeunes majeurs dans la loi pour pousser ce Haut Conseil à désapprouver fortement. Et c'est d'ailleurs ce que le Conseil vient de faire, notamment sur la question de la création d'un fichier spécifique pour les mineurs étrangers soupçonnés d'avoir commis des infractions pénales, qui était quand même quelque chose de très inquiétant, en fait. Mais aussi, puisqu'on parlait de la question de l'expulsion possible des jeunes majeurs, le fait de la loi veut enlever l'obligation de la prise en charge de jeunes qui viennent juste d'atteindre la majorité, par l'ASE, en fait, ils ont fait l'objet d'une OQTF. Donc, du coup, ça crée une forme de discrimination, en fait, d'inégalité de traitement entre ces jeunes-là, et qui, évidemment, ne peuvent recevoir d'OQTF que s'ils sont étrangers ou étrangères, et les jeunes français et françaises pris en charge par l'ASE.
D'accord. Bon, mais écoute, je te remercie. On a fait un peu le tour de ce que je voulais évoquer avec toi. Ben, je te dis à bientôt et bonne continuation.
Merci beaucoup à toi.
Bonjour, je m'appelle Ouma, j'ai 16 ans, je viens de Côte d'Ivoire, la capitale Abidjan. Et ça fait un an que je suis en France maintenant.
Bonjour Béatrice, je crois savoir que tu es coprésidente d'une association qui aide et accueille les migreurs isolés à Montpellier, c'est vrai ?
Une association qui s'appelle Magie, Montpellier accueille jeunes isolés étrangers, une association qui a été créée en 2019 pour faire un point d'accueil inconditionnel pour les mineurs et jeunes majeurs qui arrivent sur le territoire de l'Hérault et de Montpellier en particulier, et pour compléter le dispositif qui était déjà en place avec le réseau Éducation sans frontières. Donc on tient de permanence les jeunes peuvent apporter leurs besoins, leurs désirs, l'envie de faire un certain nombre de choses sur Montpellier, créative. Mais en fait, un peu comme tout le monde, là, il déborde sur tout le reste. Donc on travaille énormément ensemble, mais autrement, on va travailler ensemble sur les questions de documents administratifs, de régularisation, d'alimentation, d'hébergement, de droits au transport, de sécurité sociale, en fait, tout ce qui concerne les besoins des jeunes. En fait, au départ, donc l'idée, c'était un accueil, un point d'accueil, et puis de garder une visibilité sur la façon dont le département traitait les jeunes mineurs. Et puis, comme c'était très ouvert, ben écoutez, ils ont amené ce qu'ils voulaient. Et en fait, ce qu'ils voulaient au départ, c'était apprendre le français et aller à l'école. Je pense que c'est vraiment très spécifiquement ce dont ils ont envie et besoin.
Alors justement, sur ce dernier point, il y en a beaucoup qui sont scolarisés. Où est-ce qu'ils sont scolarisés? Dans quelle classe, je veux dire? Dans quel système? À quel niveau?
Alors, c'est très relatif à deux choses. D'une part, à leur âge et à leur scolarisation antérieure. Quand ils ont été scolarisés antérieurement, même si le niveau est très faible, on y arrive. C'est-à-dire qu'il faut un niveau, CE1, pour arriver à rentrer dedans. Alors, avoir moins de 18 ans, parce que il faut passer sous les fourches connues de l'évaluation du CASNAV, et le CASNAV n'évalue que les moins de 18 ans. Donc, il faut passer par l'évaluation au CASNAV, et à ce moment-là, le CASNAV renvoie sur... CASNAV, c'est le centre d'accueil et de scolarisation des enfants... du voyage et nouvellement arrivé, enfin bon, c'est un truc comme ça a varié, c'est pas toujours la même chose. D'ailleurs, c'est pas centre d'accueil, c'est centre académique. C'est pas d'ailleurs du tout académique, puisque c'est départemental et qu'il y a un CASNAV dans chaque département qui est chargé d'évaluer le niveau de scolarisation des personnes qui arrivent, des jeunes qui arrivent, et de voir sur quel niveau de classe on peut les intégrer. Alors, c'est... Pour nous, c'est des niveaux très faibles le plus souvent, mais ça peut être tout à fait, ils peuvent évaluer des enfants de diplomates qui ont été scolarisés dans leur pays d'origine ou dans leur langue d'origine, donc des gens qui n'ont pas eu une scolarité en français. Donc la plupart des jeunes, je dirais qu'il y a deux cas de figure pour les jeunes qu'on accueille, moins de 18 ans, déjà scolarisés, ou avec déjà sachant lire, écrire, compter, enfin avec un petit début de scolarisation. On va les intégrer le plus souvent dans des lycées professionnels, sur des CAP, quel que soit le CAP. Hein, ils font évidemment beaucoup de CAP du bâtiment, mais aussi la restauration, le service, la cuisine, un peu de mécanique, pas trop parce que c'est très demandé, mais de la logistique, pas mal en logistique, des espaces verts, on en a eu en coiffure, c'est très très large. Ils sont assez bien accueillis dans les lycées professionnels, parce que je pense que dans les lycées professionnels, ils ont souvent bien changé l'ambiance qu'il pouvait y avoir dans les cours et dans les cours, à l'intérieur des cours et dans les espaces extérieurs aux classes.
Et dans les lycées professionnels, il y a des structures d'aide de type UP2A, donc pour jeunes allophones.
Alors il y a deux cas de figure. Quand ils sont vraiment allophones, ils sont en UP2A, il peut y avoir des UP2A, et il y en a dans les lycées professionnels. Le problème plutôt, c'est quand ils sont francophones, parce que, en tout cas sur l'Académie de Montpellier ou à Montpellier, il y a, à ma connaissance, en lycée, hein, je dis pas en collège, mais en lycée, il n'y a pas de... C'est quoi, c'est les UP2A, NSA, non scolarisés antérieurement. Je crois qu'il y en a sur Paris, mais il n'y en a pas à Montpellier. Donc ils sont lancés un peu dans le bas avec parfois quelques heures de FLE. Ou alors, le plus souvent en fait, c'est que s'ils ont plus de 16 ans, parce que normalement, j'y reviendrai, mais normalement avant les 16 ans, ils doivent être scolarisés, puisque la scolarité est obligatoire avant 16 ans. Sur les moins de 16 ans, on a un gros problème en fait sur les moins de 16 ans, c'est que il y a très peu de place dans les collèges. Et du coup, ça traîne, et parfois ils atteignent leurs 16 ans sans avoir pu rentrer en collège ou même en seconde, parce que maintenant les 16 ans ils mettent en seconde, niveau de classe seconde, ils sont un peu perdus en seconde, mais bon, tout le monde tout le monde gagne du temps ou perd du temps. En fait, tout le monde gagne du temps sur le dos des gamins qui perdent du temps. J'ai cette impression-là. Hein. C'est-à-dire que ils peuvent faire l'évaluation, il n'y a pas de place, donc on va attendre un mois, deux mois, trois mois. Puis finalement, la fin de l'année scolaire arrive. Donc finalement, ben, ils seront pas scolarisés cette année-là. Et puis, voilà.
Et puis, on se retrouve avec des jeunes qui n'ont pas été scolarisés pendant plusieurs années et qui ont d'autant plus de difficultés à reprendre une scolarité.
Tout à fait. Alors, ce que je voulais dire, c'est que il y avait quand même énormément de jeunes qui étaient déclarés, alors c'est non scolarisables. Et pour nous, ça, enfin, ça nous fait bondir. C'est-à-dire, ça veut dire qu'ils n'ont pas le niveau CE1, plus ou moins, hein, qui est requis pour rentrer en CAP. Donc, non scolarisables, ben, ça veut dire que, alors, ils dépendent de cours de droite, de gauche. Alors, il y a quand même des dispositifs qui se mettent en place avec pour des tout petits niveaux, sur des titres professionnels, des maisons familiales et rurales ou des structures qui se saisissent un peu de ces jeunes qui sont ni lecteurs, ni descripteurs, et qui du coup n'accèdent à aucune formation. Alors, quand même, parce que là je parle de l'éducation nationale, mais on arrive quand même maintenant, et je pense que c'est un peu dans l'air du temps, à les faire rentrer dans des apprentissages.
Mais pourtant, il existe des structures dans l'éducation nationale qui sont aptes à prendre des jeunes qui n'ont pas été scolarisés. Moi, quand j'ai cherché à scolariser une jeune afghane, la question qu'on m'a posée, c'est est-ce qu'elle a déjà été scolarisée ou pas ? Si elle n'a pas été scolarisée, c'est tel collège.
Alors, peut-être qu'il en existe un petit peu en collège, mais en tout cas en lycée, ça c'est clair qu'il n'y a pas du P2A NSA, ce que c'est non scolarisé intérieurement, ça n'existe pas. Alors, il était question d'en monter, enfin nous on a demandé à ce que ce type de dispositif soit monté, et on nous a dit que c'était pas possible. En fait, quand même, il y a un dispositif qui pour nous fonctionne sur Montpellier, avec ses heures et malheurs, hein, mais c'est le dispositif Mission de lutte contre le décrochage scolaire. On a deux établissements, deux lycées professionnels qui ont ouvert des dispositifs qui permettent de scolariser. Alors, c'est une scolarité en alternance. Ils font 15 jours de classe et 15 jours de stage professionnel. Alors, l'intérêt, en fait, c'est qu'ils sont pas obligés de passer par le CASNAV, donc ils ne sont jamais déclarés non scolarisables. Et que, comme ils sont en établissement scolaire, en tout cas, ils ont un numéro INE à la fin de l'année. Et donc, ils passent par le dispositif de fin de troisième pour aller dans des CAP. Et ils ont énormément de points pour rentrer. Ils ont, alors, le plus souvent, moi, j'ai jamais vu qu'ils n'en aient pas, ils ont le plus souvent une affectation en CAP pour l'année suivante. Alors là, c'est absolument formidable.
D'accord. Est-ce que tu as le sentiment que dans les 5 dernières années, c'est peut-être pas un hasard si je dis 5 dernières années, la situation s'est aggravée, y compris du point de vue de vos financements d'ailleurs?
Antérieurement à cette association, je m'occupais d'une autre association dont le département pour laquelle le département a arrêté les subventions. Sur cette association spécifique, non, on cherche pas à avoir énormément de subventions, on bricole un petit peu avec des subventions de la mairie, de l'État via la cohésion sociale, le soutien aux associations. Un peu de financement participatif et la Fondation de France. Bon, on n'a pas de salariés, donc on s'en sort. Hein. Globalement, en fait, je dirais que, en tout cas dans l'Hérault, je pense que il y a beaucoup de dispositifs qui ont été montés, il y a beaucoup de financements quand même qui sont donnés pour les mineurs non accompagnés. Hein. Ça répond jamais totalement à la demande, d'autant plus qu'il y a beaucoup de jeunes qui arrivent. Hein. Je pense que, alors c'est très difficile d'avoir des chiffres. Hein. J'ai l'impression que chez nous, il y en a 50% qui sont mis dehors, soit au premier accueil au département, soit après évaluation. Donc nous, on en récupère quelques-uns pour lesquels on fait des recours auprès du juge pour enfants. Pas beaucoup parce qu'en fait, c'est des jeunes qui sont errants, hein, qui ont certainement plus de 18 ans, qui sont pas mineurs, je suppose, hein, pas tous, mais la plupart, une partie. Alors ils vont un peu de département en département, ils vivotent, ils se retrouvent dans des quartiers plus importantes que, ou dans des métropoles plus importantes que Montpellier, où il peut y avoir des squats, ou des regroupements de jeunes. Alors ça va être Marseille, Toulouse, Lyon, Paris.
Et évidemment, la loi d'immigration, elle va couper le robinet au départ, c'est-à-dire que les gens vont plus partir de chez eux parce qu'ils vont être très bien, et donc elle va faciliter tout pour tout le monde.
Absolument, absolument, oui. Ce qu'on sait pour le moment, c'est qu'il n'y a pas de rendez-vous, par exemple, pour des régularisations.
soit ils, enfin, pour les jeunes qui sont pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, si tout va bien et s'ils sont aidés par l'aide sociale à l'enfance, ils vont avoir un rendez-vous et déposer leur dossier de demande. Sinon, ils peuvent pas déposer de dossier parce qu'il n'y a pas de rendez-vous. Donc, de toute façon, ils ne délivrent pas de titre de séjour puisque les jeunes ne peuvent pas déposer de dossier. Donc, c'est absolument, ça peut pas être, je dirais que ça, quelque part, ça peut pas être pire de ce point de vue-là. Après, ce qui peut être pire, c'est les OQTF, donc les obligations à quitter le territoire français, puisque actuellement, elles sont de 1 an, associées souvent à une interdiction de territoire français de 1 an, ou une interdiction de retour sur le territoire français, je sais plus lequel est lequel, de 1 an aussi, parfois 2 ans, mais les OQTF ne sont plus exécutoires au bout d'une année. Et là, elles vont passer à 3 ans. On ne sait même pas d'ailleurs si les OQTF encore exécutoires ne vont pas être prorogés directement de 3 ans. Ce serait un peu, enfin bon. Ouais. Semble-t-il, les jeunes qui ont déjà eu une OQTF en auront, le dossier ne sera jamais étudié, ils en auront une systématiquement, une deuxième systématiquement. C'est ce qui semble avoir été dit dans des circulaires, dans des courriers de notre ministre de l'Intérieur aux préfectures. On ne sait pas très bien comment tout ça va être appliqué. On ne sait pas très bien non plus comment vont être appliquées les dispositions sur les régularisations par le travail. Donc on est en intérêt associatif, on est en train de travailler dessus, mais bon, il va falloir qu'il y ait une sorte de jurisprudence qui se mette en place pour qu'on comprenne, nous, quel dossier on peut proposer, comment on peut le faire, parce que bon, ça existait déjà, puisque la circulaire Valls permettait de régulariser des gens qui étaient depuis 3 ans sur le territoire français avec 8 fiches de paye en CDI à temps plein, enfin bon. Mais maintenant, on se demande d'ailleurs si ça va pas s'apparenter aussi à une chasse au patron qui emploierait des gens sans titre de séjour, et on sait qu'il y en a. Quand même, ça change un peu notre travail, parce que moi, quand je regarde, nous, actuellement, je pense qu'en intérêt associatif, on héberge 15 de jeunes. Alors, les jeunes qu'on héberge, normalement, ils sont tous scolarisés ou en apprentissage, et ils payent un petit loyer. Mais il y en a certains qui sont scolarisés, et moi, je ne vois absolument pas comment ils pourront être régularisés. Donc, je pense qu'il va falloir aussi qu'on travaille sur la question du retour. Et c'est un peu un crève-cœur pour nous, parce que c'était pas vraiment dans nos pratiques, même si parfois on l'abordait avec les jeunes.
Bonjour, je m'appelle Mamadou. Je suis né en Guinée-Conakry, la capitale. On habitait dans une case et je vivais seul avec mon père. Je suis arrivé en France le 9 octobre 2017 en train, d'abord à Nice, après à Marseille, à la gare de Saint-Charles.
Bonjour madame, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Quelques mots peut-être. Pour vous présenter, vous appelez Madame Emeline Zoukbédé. Vous êtes socio-anthropologue, sociologue, mais travaillant avec les acquis de l'anthropologie. Et dans ce cadre, vous interrogez les phénomènes de migration et les politiques publiques concernant les migrations internationales, qu'il s'agisse d'adultes ou de jeunes. Je ne me trompe pas ?
Oui, tout à fait ça.
Si je ne me trompe pas, vous êtes universitaire et vous travaillez actuellement au CNRS, c'est ça ?
Oui, je suis chercheuse postdoctorale pour un institut convergence migration soutenu par le CNRS.
Voilà. D'accord, je vous remercie. Alors, je vais vous poser des questions qui en fait vont être dans 2 directions différentes. La première, c'est un peu sur qui sont ces jeunes migrants, d'où viennent-ils ? Et puis la deuxième, c'est plus sur l'intégration en France, la façon dont les Français, dont la France plutôt, dont l'État français, parce que ce n'est pas tellement les Français, l'État français les accueille ou pas. Ça, Ma première question, c'est est-ce que vous avez une idée de l'importance des flux de migrants mineurs isolés ?
Oui, alors c'est une question que moi, pour ma part, je trouve assez complexe. Ce qu'il faut savoir, c'est que le phénomène des migrants mineurs isolés ou des mineurs isolés étrangers, et puis maintenant mineurs non accompagnés, pour notamment se caler sur la législation européenne est un phénomène assez ancien, au moins des années 70, en tout cas tel que qu'il a été formalisé, et donc du coup avec des flux de jeunes qui ont pu varier selon les époques, et on peut retenir différents temps. Un premier temps dans les années 70-75, notamment avec avec les Boat People, puis dans les années 90 avec l'implosion de l'ex-Yougoslavie, puis 2010-2011, on a eu tout au long des années 2000 des arrivées massives de mineurs isolé, 2015, crise de l'accueil partout en Europe, et puis 2019-2020, le Covid. Et donc, j'ai repris ces dates, on pourra en trouver d'autres, mais notamment pour montrer que selon les époques, selon les contextes géopolitiques et socio-économiques, on va avoir des flux de mineurs isolés plus ou moins grands, plus ou moins restreints. Ce que je veux aussi souligner, c'est que ça dépend de la manière de les comptabiliser. Vous avez depuis 2013 eu la création de la Mission nationale des mineurs non accompagnés, hein, qui a été créée notamment par la circulaire Taubira, avec cette idée d'harmoniser, on reviendra sur l'accueil, mais d'harmoniser l'accueil des jeunes mineurs isolés étrangers dans les différents départements. Ajoutons quand même que depuis les lois de décentralisation des années 1980, la protection de l'enfance est une compétence des départements, mais on pourra y revenir aussi, et donc les départements organisent un peu comme ils veulent l'accueil. Et donc, en 2013, il y a une volonté d'harmonisation des pratiques et de l'accueil, et cette création de la mission qui permet de coordonner au niveau national les différentes manières de prendre en charge ces jeunes, mais aussi de comptabiliser ces jeunes. Elle a un rapport, elle publie un rapport annuel chaque année, disponible sur Internet, hein, téléchargeable, et on a depuis 2013 voilà différents chiffres. Pour 2022, le rapport indique qu'il y a eu une augmentation de 30%. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ce rapport, il n'est pas forcément fait mention du nombre de jeunes pris en charge, mais plutôt des personnes reconnues mineures non accompagnées, et donc ayant le statut et donc pris en charge à la protection de l'enfance, en 2022. Et ce nombre est de 14 782. En fait, 14 782 revient à comptabiliser les ordonnances et les jugements de placement. Donc, en fait, en l'état, on peut avoir des jeunes qui sont placés sous la protection de l'enfance jusqu'à majorité, ou alors des jeunes qui sont placés provisoirement, etc. Donc, on a un décompte comme ça de personnes qui peuvent être un peu cumulées. Sinon, pour d'autres sources, notamment un journal Enfance et Jeunesse, on va avoir à peu près 20 000 mineurs non accompagnés en France pris en charge. D'accord. On peut dire à l'heure actuelle. Sachant qu'il faut enlever à cette part-là, selon comment c'est compté, les mineurs déférés au pénal, ou alors aussi les mineurs devenus majeurs qui sont maintenant dans des contrats jeunes majeurs.
Ou les mineurs considérés comme majeurs, puisque il y a toute la difficulté de la reconnaissance de la minorité.
Alors, et ça, c'est une autre manière de calculer aussi. Ouais. Mais on va dire, sur les chiffres de l'État et de l'action publique, on a à peu près 20 à 24 000 jeunes pris en charge par l'aide sociale à l'enfance mineurs. Hein, duquel faut et après, il y a tous les mineurs en recours, évidemment.
Bien sûr, bien sûr. Et en gros, leur âge s'échelonne, enfin à partir de quel âge on peut arriver en France comme ça, tout seul?
Alors, sur l'âge, on est toujours un peu entre 15 et 17 ans, sachant que là, on va avoir des jeunes pour l'année 2022, toujours sur le même rapport, mais pour les jeunes qui viennent d'être admis à la protection, on est entre 16 et 17 ans pour les trois quarts. Sachant qu'en 2019, c'était plutôt les 15-17 ans. On a très peu de jeunes, mais on va avoir quand même un peu une augmentation au fil des ans, des 13-14 ans. En 2019, ils représentaient 9% et en 2022, 7%, sachant qu'en 2020, c'était 5%. Donc, on a quand même une petite augmentation des plus jeunes profils, mais souvent, c'est bien une prise en charge entre 15 et 17 ans en moyenne sur la décennie.
Ça m'amène à la question suivante qui est sur les conditions de départ et d'arrivée. J'imagine que un certain nombre de ces jeunes partent seuls ou partent en groupe de jeunes, mais sans doute y en a-t-il qui arrivent seuls ou en n'étant pas partis seuls, et donc en étant partis avec une famille, ils peuvent être plus jeunes ceux-là.
Oui, effectivement. Après, je dirais que la manière les motifs de départ et les manières dont ils sont assez pluriels et sont aussi documentés par plusieurs collègues, notamment sur les routes, sur les tracés des migrations, etc. Ils peuvent partir seuls, ils peuvent partir en groupe, ils peuvent partir en famille et perdre un membre de leurs parents sur la route. Dans les années 2000, on a la sociologue Angelina Etienne-Blé qui a essayé de dresser une typologie des profils de ces jeunes et de savoir pourquoi ils partent. peu. Et elle trace 5 catégories. Donc, il y aurait les mineurs exilés, qui fuient la guerre, les persécutions ethniques et religieuses, etc. Les mineurs mandatés, et donc ceux qui ont pour mission de venir en Europe, d'être scolarisés, de travailler pour faire vivre la famille et rester au pays. Les mineurs exploités, qui font l'objet de traite des êtres humains. Les mineurs errants, donc les mineurs, plutôt les enfants des rues, des pays de départ, qui vont se retrouver à prendre le chemin pour l'Europe. Les mineurs figures, qui eux ont des difficultés avec leur famille. Voilà. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que même si on peut dresser des typologies, c'est intéressant de pouvoir un peu voir comment se dessinent différents motifs migratoires, on peut pas non plus substituer un motif à une catégorie de jeunes. En fait, souvent, les motifs sont aussi entremêlés. Oui, et ce qui est intéressant aussi de noter, c'est ce que note le sociologue Olivier Perroux, c'est que en fait, on a aussi une augmentation, et là, je reviens un peu sur la première question, du nombre de jeunes se déclarant mineurs isolés, aussi du fait des politiques migratoires restrictives de l'Union européenne qui font qu'on part de plus en plus jeune pour espérer obtenir un titre de séjour aux 18 ans. Faut savoir que maintenant, pour être régularisé, c'est beaucoup plus compliqué et que donc, il y a aussi cet effet de partir plus jeune. Et donc, entre 15 et 17 ans pour, voilà. Il y a aussi autre chose que je voudrais souligner sur les âges d'arrivée et la reconnaissance des mineurs non accompagnés. Ce qui est compliqué, c'est qu'on a aussi des jeunes qui font face à des parcours migratoires assez erratiques et qui vont, en fait, prendre des années pour venir, par exemple, en Europe. Vous pouvez avoir des jeunes du Bangladesh, du Pakistan, d'Afghanistan ou même de Guinée qui vont venir, du coup, à pied, qui vont prendre des transports, des bus, etc. et qui vont partir mineurs et qui vont potentiellement arriver plus vieux. En arrivant,
ouais, bien sûr,
toujours mineur, bien mais sûr. Voilà, avec 2-3 ans de plus, quoi. Et
le voyage est long.
Voilà, et puis, qu'il faut le souligner. Ouais.
Ouais, je pense à l'ouvrage de Camille Schmoll sur les damnés de la Méditerranée qui concerne les femmes et qui montre et la longueur du voyage et la difficulté du voyage. Oui. À cet égard, d'ailleurs, j'ai plutôt en tête, moi, le fait que les mineurs isolés sont des garçons. Il y a des filles quand même dedans.
Il y a des filles. Alors, c'est toujours par rapport au même rapport, donc sur l'année 2022, mais même pour les autres années, en fait, on a à peu près 4% de filles. En 2022, on est plutôt à 7% de filles. Donc, il y a de plus en plus de filles. Après, ce qui est compliqué pour les filles, c'est qu'il y a plusieurs hypothèses qui peuvent être faites. C'est que les femmes sont beaucoup plus, et d'ailleurs, elle le montre Camille Schmoll dans son ouvrage, Les damnés de la mer, comme vous venez de le citer. Les femmes sont beaucoup plus sujettes à différentes formes de violence, à différentes vulnérabilités. Et moi, en tout cas, j'ai émis une hypothèse qu'elles sont plus facilement envoyées en avion, potentiellement.
Ouais, d'accord.
Facilement envoyées dans de la famille aussi. Que les jeunes garçons, peut-être pour qui on va moins négocier d'aller chez l'oncle ou la tante dans un pays européen.
Parce qu'il est censé être capable de se débrouiller davantage.
Que les violences, mais voilà, c'est vrai, c'est vraiment l'état d'hypothèse de savoir pourquoi les filles. Après, il y a peut-être aussi quelque chose de très genré dans les pays d'origine où les femmes, même en France, s'occupent encore des activités domestiques et donc partent moins.
Oui, bien sûr. Et on leur donne moins la charge d'aller gagner de l'argent ailleurs.
C'est ça.
Dans tous les cas.
Donc, il y a tout un tas d'hypothèses que l'on peut formuler sur pourquoi il y a moins de filles. Après, il y a aussi un autre phénomène, et c'est assez triste à dire, c'est que les femmes sont aussi souvent sujettes, comme je vous l'ai dit, de violences et de violences sexuelles, de viols sur les routes, et que potentiellement, il y a aussi une part de ces filles qui arrivent enceintes en France, que ce soit issues de viols ou d'un compagnon de route, et qui vont être reconnues comme mères célibataires. Jeunes mères, et donc ils vont être placés dans les foyers de jeunes mères, etc. Mais l'enfant, lui, n'est pas mineur à naître, ou qui est né, n'est pas mineur non accompagné, et donc elles ne sont plus comptabilisées dans les effectifs.
D'accord, oui, je pense que
cette dimension-là de catégorisation, quand on parle de mineur non accompagné, de mineur isolé étranger, etc., en fait, qui on catégorise, d'accord. Et du coup, les calculs sont un peu plus...
Vous avez évoqué à plusieurs reprises déjà l'accueil en France. Alors, je ferai le lien entre l'accueil et la scolarisation. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur les processus d'accueil, ce qui est mis en place et les facilités de scolarisation ?
Oui. Alors, c'est au niveau de l'accueil. Après, je pense que c'est intéressant de savoir ce qu'on entend par accueil, comment on les accueille. Comme j'ai dit tout à l'heure, la protection de l'enfance est une compétence des départements depuis les années 80. Oui. Et donc, jusqu'aux années 2010, jusqu'à la circulaire Taubira, les départements prenaient en charge les mineurs non accompagnés, les mineurs isolés qui se présentaient sur leur territoire. Pour ma part, j'ai travaillé sur une enquête qui portait sur le département de la Seine-Saint-Denis, qui a été très longtemps un des plus gros départements accueillant ces jeunes, du fait d'une part dans les années 2000 de la proximité avec l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle, quand les venues se faisaient encore par avion, et puis du fait aussi d'une communauté de personnes immigrées sur le territoire. Et donc là, on a pu avoir des accueils complètement différents, et surtout une crise de l'accueil dans les circonscriptions de l'aide sociale à l'enfance de Seine-Saint-Denis, qui ont protesté, qui se sont mis en grève dans les années 2010, et ça a donné lieu notamment avec l'aide d'autres départements, à l'appui d'autres départements, à la circulaire Taubira de 2013, qui, elle, propose d'harmoniser les pratiques, et notamment l'évaluation sociale de la minorité. Et donc, vous allez avoir, selon les départements, des associations, ça peut être Forum Réfugiés, ça peut être France Terre d'Asile ou la Croix-Rouge, ou alors des morceaux des bureaux de l'aide sociale à l'enfance qui vont procéder à l'évaluation de la minorité. Par ailleurs, vous avez aussi dans certains départements des tests osseux qui se pratiquent sur les jeunes, sachant que ces tests ont été vivement critiqués, hein, puisqu'il y a 2 ans de différence. Hein, donc, quand on sait qu'ils arrivent entre 15 et 17 ans, bah, c'est à 2 ans près, ils peuvent être majeurs. Et que surtout, c'est basé sur un os d'une personne de type caucasienne. Et donc,
oui.
Des différences aussi notables à ce moment-là. Je vous parle de tout ça parce que pour moi, ça peut rentrer aussi dans l'accueil. Qu'est-ce qu'on attend dans l'accueil? Parce que ces jeunes, quand ils doivent être évalués, ils sont censés être mis à l'abri, donc mis à l'abri dans des structures, dans des foyers, en attendant leur évaluation et donc être protégés. Et que vous allez avoir une saturation aussi de ces structures, puisqu'elle est à la charge des départements avant 2013, et donc un accueil aussi différencié. Ensuite, vous avez aussi des départements qui vont accueillir beaucoup moins de mineurs non accompagnés. Et toujours dans ce même... Dans ce même rapport, vous allez avoir, c'est toujours ceux qui sont reconnus, hein, qui ont été confiés, mais vous avez des nationalités différentes, vous avez des chiffres aussi différents. Après, concernant le placement, et là, une fois que le jeune a été admis à l'aide sociale à l'enfance, vous allez avoir aussi des différences selon les départements, selon s'il travaille avec des associations qui travaillent aussi avec des mineurs isolés étrangers depuis longtemps, selon le nombre de jeunes aussi à prendre en charge, etc. Et donc, un accueil qui est censé être harmonisé, au niveau national et qui en même temps est plein de différences selon.
Oui, je viens d'entendre dire par exemple que le Doubs cette année a refusé de scolariser les mineurs étrangers au prétexte que leur minorité était remise en cause par le département, alors que dans d'autres départements ils sont systématiquement scolarisés. Donc il y a des différences qui restent assez importantes entre les départements.
Oui.
Et n'étant probablement pas un département d'accueil massif.
Non, mais vous allez avoir aussi des petits départements qui vont être peut-être beaucoup plus proactifs dans l'accueil parce que vous allez avoir 2 mineurs sur l'année. J'ai oublié de vous dire aussi, c'est que depuis 2013, il y a une clé de répartition en fait qui est calculée. Donc les mineurs vont se présenter sur un département, vont être évalués, reconnus, et en fait cette clé va les répartir en France. Ils n'ont pas d'attache familiale.
D'accord.
Pour équilibrer et donc pour éviter que les départements de Paris, des Bouches-du-Rhône, du Pas-de-Calais et de la Seine-Saint-Denis, qui sont les 4 gros départements qui accueillent le plus de jeunes, se retrouvent saturés. Sauf que cette clé était à la base calculée sur la population de moins de 19 ans. Et donc, on se retrouvait en Seine-Saint-Denis, par exemple, avec beaucoup de jeunes à prendre en charge, puisque c'est un département assez jeune. La clé a été recalculée pour dépendre maintenant de la population totale du territoire du département. Et donc, quand vous regardez les chiffres, vous avez maintenant un peu plus de mineurs accueillis dans chacun des départements français.
D'accord. Quand vous parlez du 93, ça correspond au projet MINA 93,
oui,
hein, c'est ça?
Oui,
dans lequel vous êtes active, d'accord.
Oui.
Et qui débouche sur un...
C'est un projet qui a débouché, qui a un projet qui est fini, qui a un projet qui a été monté en partenariat avec le conseil départemental de la Seine-Saint-Denis, et précisément la direction Enfance-Famille, et donc les services de l'aide sociale à l'enfance, qui a réuni 8 chercheurs de disciplines différentes, histoire, sciences politiques, anthropologie et sociologie. Et donc, il s'est inscrit dans ce qu'on appelle des projets de recherche action collective, plus ou moins. En tout cas, essayer d'un partage entre justement les professionnels de l'aide sociale à l'enfance et les chercheurs sur la question de l'accueil, et notamment ce que ça fait aux pratiques professionnelles. Et donc, il y avait 2 volets à ce projet qui, dans sa forme longue, est mineur non accompagné en Seine-Saint-Denis, trajectoire, parcours, dispositif. Et le premier volet était de comprendre comment la création en fait, d'une nouvelle cellule, parce que dans 1993, il y a eu pas mal de tensions, notamment au niveau des équipes et des manières de pouvoir accueillir ces jeunes. Et donc, en 2018, c'était dans les tuyaux depuis longtemps, mais en 2018, septembre 2018, a été inaugurée la CAMNA, qui est la cellule d'accompagnement des mineurs non accompagnés, et qui est une cellule qui est en fait une circonscription de l'aide sociale à l'enfance et en même temps un groupement, et qui concentre tous les mineurs non accompagnés pris en charge par le département de la Seine-Saint-Denis. Et donc l'idée, c'était de voir comment finalement se spécialiser dans ce public, impacter les pratiques, restructurer les pratiques, etc. Et un autre axe, c'était sur le parcours et devenu des jeunes pris en charge avant et après. Et donc c'est un projet qui a été assez intéressant justement, puisqu'on a à la fois travaillé, alors un peu moins avec les jeunes, mais notamment avec les équipes d'éducatrices spécialisées.
D'accord, d'accord. Les études, elles sont accessibles en ligne?
Oui, oui. Alors il y a eu quelques publications des membres du projet dans des revues de sciences sociales, et nous avons un blog, un carnet de recherche qui est plus alimenté puisque le projet est fini, Mina 93, voilà, sur hypothèse.org, et donc là vous avez les différentes publications qui ont été faites, certaines réflexions, et vous avez aussi ce colloque s'est clôturé, enfin pardon, ce projet s'est clôturé par un colloque qui a eu lieu les 9 et 10 décembre 2021. Et donc, vous avez quelques traces de ce colloque, mais surtout un colloque qui va donner lieu à une publication prochaine, justement, sur ce regard croisé, finalement, recherche et professionnelle de l'enfance sur l'accueil de ces jeunes et leur parcours et leur devenir.
Pour terminer, juste deux mots sur la loi Darmanin, ses conséquences, si vous en avez une idée, pour les mineurs isolés.
Oui. J'en ai aucune idée, c'est très compliqué.
Je sais que c'est extrêmement compliqué. Ouais. En fait, tout le monde me dit à peu près la même chose. C'est que c'est tellement compliqué, avec en plus les mesures qui ont été retoquées, celles qui le sont encore. Enfin bon,
c'est très compliqué. Et je pense qu'il faudrait voir les décrets, les circulaires d'application et les effets qu'elles ont. Quoi. Moi, je pense que de toute façon, la loi Darmanin se heurtera aussi au déficit de personnel dans les services de préfecture.
La réalité de
la réalité. Quelle que soit la direction, que ce soit les prises de rendez-vous, que ce soit l'exécution ou plutôt l'édition de QTF, etc. Je pense qu'il y a une réalité en fait qui a été complètement
balayée. Comme souvent d'ailleurs dans les décisions du gouvernement.
Je n'ai pas tout à fait répondu sur la scolarisation. Pour qu'ils aient un titre de séjour, comme c'est 15-17 ans, la priorité, c'est qu'ils aient une formation professionnelle. Ouais. Parce qu'il y a cette histoire aussi d'avant 16 ans, ils peuvent essayer de récupérer un titre de séjour vie privée familiale, mais après, il y a moins de chances, je crois que c'est même 15 ans, et qu'en fait, ils vont avoir un titre de séjour salarié et qu'il faut qu'ils soient dans une formation. Donc, des fois, les questions de scolarisation ne se posent pas comme on peut l'entendre, de se dire on va aller au collège ou au lycée, mais plutôt apprendre un métier et après. Et que même si la circulaire Valls prévoit aussi justement la régulation des mineurs isolé, il y a un peu cette idée qu'un titre de séjour pour étudiants est très compliqué à avoir. Je pense qu'il faut avoir un parcours d'excellence et une excellence dans les études universitaires. Je pense qu'ils ont beaucoup, beaucoup moins de chances d'avoir un titre de séjour étudiant s'ils font une licence, par exemple, anglais
et espagnol. Je vous remercie énormément. Hein, c'était extrêmement intéressant.
C'était avec plaisir.
Donc, merci à vous. C'était Jeunes migrants isolés. Quelle est leur situation ? Un podcast de l'École émancipée dont les interviews ont été réalisées avant le vote pour les européennes de 2024.
Retrouvez l'ensemble des contenus publiés par l'École émancipée dans sa revue et sur son site écoleémancipée.org.
Merci à Samuel Hirsch, créateur du jingle de ce podcast.
Écoute. Émancipée. Le podcast de l'École émancipée.
Notre podcast se trouve sur la plateforme Spectre et sur vos services d'écoute préférés, avec beaucoup d'autres podcasts consultables sur spectremedia.org.
Spectre.